on s'est demandé s'il fallait faire une part à l'influence de l'astrée dans la formation de la société précieuse. Je le crois, avec cette réserve déjà indiquée, que Durfey n'a pas eu la prétention de créer de nouveaux courants, d'idées et de sentiments. Il s'est borné à observer ceux qui se dessinaient au fond des âmes et à s'en faire l'apôtre, se sentant avec eux en complète harmonie. L'esprit de société serait né sans lui. Il commençait de naître alors que parurent les premiers volumes de l'astrée. Son essor aurait été moins rapide si Durfey n'avait pas écrit. Il a passé longtemps pour spirituel de se moquer des précieuses. Maintenant que ce plaisir trop facile s'est émoussé par l'abus, il y a plus d'originalité à leur rendre justice. On a généralement retenu d'elles, dit M. Brunetière, que le souvenir de leur ridicule. Et il faut avouer qu'elles en ont eu beaucoup. Ce qu'on pourrait surtout leur reprocher, ce serait d'avoir remis la littérature française à l'école de l'Espagne et de l'Italie, supposer du moins qu'elles eussent pu l'éviter dans une cour toute italienne et dans un temps où l'influence espagnole rentrait chez nous par toutes nos frontières. Mais elles nous ont, après cela, rendu de grands services, et des services qu'on ne saurait oublier, méconnaître ou négliger, sans fausser 20 ou 30 ans de l'histoire des mœurs et de la littérature. C'est ainsi qu'étant femmes et du monde, elles ont affranchi la littérature de ce pédantisme dont elle est encore tout embarbouillée, dans Ronsard ou dans Montaigne même. Elles ont obligé l'écrivain à secouer la poussière de sa bibliothèque ou de sa librairie. Elles lui ont imposé quelques-unes des exigences de leur sexe et, par là même, une littérature jusqu'alors presque purement érudite et devenue déjà mondaine. Elle l'est également devenue, et presque en même temps, grâce à elle, par un air de décence et de politesse qui lui manquait encore. Les précieuses ont exigé des hommes qu'ils leur rendissent les respects auxquels toute femme a droit, comme femme dans une société civilisée, et elles l'ont obtenu. On comptera désormais avec elles. On ménagera leur pudeur. Elles ont épuré le langage et, par cela seul qu'elles obligeaient l'honnête homme à choisir ses mots, elles l'ont accoutumé à discerner les nuances de la pensée, à anatomiser l'idée à traduire. À la faveur de la préciosité, la propriété de l'expression et la finesse de l'analyse s'introduisent donc ensemble dans le discours. Voilà bien des services et bien éminents. On en mesure toute l'étendue qu'en examinant de près les mœurs qu'il fallait adoucir et polisser. L'élégance des costumes et des attitudes cachait une rudesse et une grossièreté dont les preuves sont à profusion dans les écrits du temps. La grande mademoiselle, qui est déjà de la seconde génération des précieuses et qui a mérité par son amour du bel esprit de figurer dans leur livre d'or, avait encore, sitôt qu'elle s'animait, un verbe et des gestes de pandour. Elle faisait mille imprécations et elle menaça un jour le maréchal de l'hôpital qui eut peur et fit la doux de lui arracher la barbe de ses propres mains. Plusieurs femmes de qualité étaient connues pour avoir la main leste et lourde, le pied à l'avenant. Les gens et leurs galants en savaient quelque chose. Madame de Vervins, qui appartenait à la cour où elle avait assisté avec mademoiselle aux fêtes en l'honneur de mademoiselle de Hautefort, fouettait elle-même ses laquais et ses servantes et n'y allait pas de main morte. L'une de ses suivantes en mourut, dit-on, et fut vengée par le peuple de Paris qui mit la maison à sac. On brisa vitres, on rompit portes. Bref, si fort s'accrut le tumulte que de peur de plus grande insulte, cette dame s'enfuit exprès et se sauva par les marais. Les hommes ne se gênaient pas pour riposter. Au besoin, ils commençaient. le comte de Brégis, ayant reçu un soufflet de sa danseuse, la décoiffa au milieu du bal. À un souper, le marquis de Lacaze saisit un gigot et en frappa sa voisine au visage, la couvrant de jus. Elle, bonne personne, en rit de tout son cœur. Malherbe avouait à Madame de Rambouillet avoir souffleté, jusqu'à la faire crier au secours, la vicomtesse d'Auchy, dont il était jaloux. Battre sa femme était chose qui s'avouait. Les plaisanteries ignobles, les saletés qu'il est impossible de raconter, étaient acceptées par les deux sexes. Le père du grand Condé, président à un jeu de société où la règle obligeait les autres joueurs à faire tout ce qu'il faisait, mangea le premier et fit manger à l'assistance, je n'ose dire quoi. Et n'essayez pas de deviner, vous ne le pourriez pas. Louis XIII, le timide et pudique Louis XIII, ne laissait pas, quand il s'y mettait, de donner à sa cour des exemples peu ragoûtants. On lit, dans un livre d'édification de 1658, que le feu roi, ayant remarqué dans la foule admise à le voir dîner, une demoiselle assez décolletée, la dernière fois qu'il but, il retint une gorgée de vin en la bouche qu'il lança dans le sein découvert de cette demoiselle. La tradition aristocratique exigeait qu'on battît les inférieurs au moindre manquement de leur part. Richelieu rossait ses gens, il rossait les officiers de sa garde, il rossait, disait-on, ses ministres. Le célèbre duc d'Épernon, le dernier des grands seigneurs, d'après Saint-Simon, discutant un jour avec l'archevêque de Bordeaux, lui bailla 3 coups de poing dans la figure et la poitrine et, lui donnant plusieurs fois du bout de son bâton dans l'estomac, lui dit que sans le respect de son caractère, il le renverserait sur le carreau. En Bourgogne, le marquis de Maulny, outré de ce que des paysans avaient fait attendre du beurre et des œufs à ses gens, sort de chez lui comme un furieux, se jette sur les premiers qu'il rencontre et à coups d'épée, à coups de pistolet, en blesse 2, mortellement. En Anjou, le comte de Montsoreau fabrique de la fausse monnaie dans les bois, rançonne les voyageurs, pille et tyrannise les campagnes à la tête de 20 brigands de son espèce. À Paris même, le duc d'Angoulême, bâtard de Charles IX, est aussi faux monnayeur et il envoie ses gens se payer de leurs gages dans la rue, en détroussant les passants. Les duels entretenaient le mépris de la vie humaine. À 30 ans, le chevalier d'Andrieux avait déjà tué en duel 72 hommes. Les édits n'y faisaient rien, il fallait que le changement vînt des mœurs. 9 ans après la mort de Louis XIII, le maréchal de Gramont disait dans une de ses lettres « De compte fait, il y a depuis la Régence 940 gentilshommes tués en duel. » C'était le chiffre officiel, sans compter ceux dont la mort fut attribuée à d'autres causes, bien qu'ils eussent réellement péri dans des rencontres. On n'y mettait pas les mêmes cérémonies et les mêmes précautions que de nos jours. Un duel était un combat de sauvages, où l'on se frappait n'importe comment et avec n'importe quoi. Tous les moyens étaient jugés bons, quoique plus ou moins courtois, pour bien tuer. En 1612, Balagny et Puymorin descendirent de cheval et tirèrent l'épée de la rue des Petits Champs. Pendant qu'ils se battaient, un valet blessa Balagny par derrière d'un coup de fourche, dont il mourut. Puymorin était déjà blessé et mourut aussi. Ce fut encore un laquais qui tua Villepreau traîtreusement pour le comte de Saint-Germain-Beaupré dans le duel qu'ils eurent ensemble rue Saint-Antoine. Le jeune Louvigny, se battant avec d'aucun cours, lui dit « ôtons nos éperons » et, comme l'autre se fut baissé, il lui donna un grand coup d'épée qui passait d'outre en outre et le mit à mort. Tallemant des Réaux qualifie cette action d'épouvantable. Cependant, elle n'eut pas de suite pour Louvigny. Le maréchal de Marillac, qui fut décapité en 1632, tua son adversaire avant que l'autre eût le loisir de mettre l'épée à la main. nous appellerions cela des assassinats. Nos pères n'y voyaient point de mal. Ils ne méprisaient que les pacifiques. La vie de Salon fut ce qui vint à bout de ces restes de barbarie. Elle forme à la politesse, qui ne permet pas de faire donner des coups de fourche dans le dos à son adversaire, ni de faire manger des ordures aux dames en jouant aux jeux innocents. Les bonnes manières sont une partie de la morale. Soyons reconnaissants aux précieuses d'avoir façonné les hommes pour le monde et à Madame de Rambouillet entre toutes les autres, car c'est elle qui a rendu possible l'œuvre générale en la commençant par le commencement. Son génie de maîtresse de maison lui avait soufflé que l'ordonnance des vieux hôtels parisiens, imaginée pour d'autres temps et d'autres mœurs, ne valait plus rien et devait être abandonnée. L'ancienne distribution ne comportait pas de salon. C'est une pièce qui n'existait pas, de sorte qu'il manquait un cadre pour cette vie de société qui demandait à naître. On ne savait, dit Talmant, que faire une salle à un côté, une chambre à l'autre et un escalier au milieu. La salle était une pièce de parade, où l'on ne se tenait point d'habitude. On recevait ses visiteurs dans n'importe quelle pièce de l'hôtel, selon l'heure, la saison ou le hasard. Ce que nous nommons salle à manger n'existait pas davantage. On dînait dans sa salle, dans son antichambre ou dans une chambre. Chaque jour, on dressait la table, ou bien on la portait toute servie, dans une pièce choisie, sans règle fixe, selon le nombre des convives. L'esprit de conversation est une plante trop délicate pour fleurir dans ces conditions, au hasard et à l'abandon. Pour avoir des causeurs, il faut avant tout avoir un endroit où causer. Tout le monde le sait, à présent, ou devait le savoir, personne n'a plus le droit d'ignorer l'influence du lieu où on se tient et qu'il suffit d'un meuble mal placé pour empêcher les sympathies de se grouper, le courant de s'établir entre les esprits. Il y a 300 ans, ce fut la découverte de Madame de Rambouillet. Ses réflexions l'amenèrent à inventer l'appartement moderne, favorable aux réunions intimes et aux joutes d'esprit. C'est une date dans l'histoire de la société française. Madame de Rambouillet possédait un hôtel délabré, situé entre les Tuileries et la cour du Louvre, vers l'endroit où est maintenant le pavillon de Rohan. Elle voulut le rétablir et ne trouva personne qui sût lui faire un plan à son idée. Elle prit le parti d'être son propre architecte. Un soir, après y avoir bien rêvé, elle se mit à crier « Vite ! Du papier ! J'ai trouvé le moyen de faire ce que je voulais !» Sur l'heure, elle fit le dessin. La disposition qu'elle venait d'inventer était si heureuse qu'elle fut imitée par toute la France. C'est d'elle qu'on a appris à mettre les escaliers à côté pour avoir une grande suite de chambres, à exhausser les planchers et à faire des portes et des fenêtres hautes et larges et vis-à-vis les unes des autres. Et si cela est vrai, que la reine mère, quand elle fit bâtir Luxembourg, ordonna aux architectes d'aller voir l'hôtel de Rambouillet et ce soin ne leur fut pas utile. C'est la première qui s'est avisée de peindre une chambre d'autre couleur que de rouge ou de tanné, et c'est ce qui a donné le nom de chambre bleue. Cette chambre fameuse, où le XVIIe siècle vint prendre le ton juste de la conversation, était disposée, avec une science déjà consommée, des exigences de sa destination. Le jour y était mesuré, les sièges comptaient 18, pas un de plus. Les groupements facilités par des paravents. Des fleurs parfumaient l'air. Des objets d'art caressaient le regard. L'ensemble avait un air de sanctuaire si caractérisé que les habitués en parlent toujours comme d'un temple, y compris la grande mademoiselle qui retenait ses grands gestes garçonniers et ravalait ses imprécations en passant le seuil de la chambre bleue. Et elle n'échappait pas à l'influence apaisante de la maison et en acceptait la discipline avec la même soumission que le reste du monde. Madame de Rambouillet était à ses yeux une chose adorable. « Je la crois voir », écrivait Mademoiselle en 1659, dans un enfoncement où le soleil ne pénètre point, et d'où la lumière n'est pas tout à fait bannie. Cet antre est entouré de grands vases de cristal, pleins des plus belles fleurs du printemps, qui durent toujours dans les jardins, qui sont auprès de son temple, pour lui produire ce qui lui est agréable. Autour d'elle, il y a force tableaux de toutes les personnes qu'elle aime. Ses regards sur ses portraits portent toute bénédiction aux originaux. Il y a encore force livres sur des tablettes qui sont dans cette grotte. On peut juger qu'ils ne traitent de rien de commun. On n'entre dans ce lieu que deux à trois à la fois. La confusion lui déplaisant et le bruit étant contraire à la divinité, dont la voix n'est d'ordinaire éclatante que dans son courroux lorsqu'elle lance les tonnerres. Celle-ci n'en a jamais. C'est la douceur même. La reconstitution de l'hôtel de Rambouillet date de 1618. D'après l'inscription d'une pierre conservée au musée de Cluny, il fallut une dizaine d'années à la maîtresse de maison pour former son salon, au sens social ou mondain du mot, et pour en parachever l'éducation. Elle le conserva ensuite dans tout son éclat jusqu'à la fronde, qui vint troubler la vie de l'esprit et suspendre les plaisirs du monde. La belle période de l'hôtel de Rambouillet coïncide donc exactement avec la première jeunesse de la grande mademoiselle, qui était née en 1627, et avec celle de Madame de Sévigné, qui avait un an de plus. La grande nouveauté des débuts fut l'espèce d'avancement accordé aux gens de lettres qui furent reçus dans la chambre bleue, sur le pied des gens du monde. Cela ne s'était jamais vu. On avait toujours recherché les beaux esprits, mais on les traitait comme mérités de l'être, après tout, de pauvres hères qui vivaient presque tous à la main tendue et à l'échiné ployé, faisant assaut de complaisances équivoques et de dédicaces écœurantes pour obtenir un sac d'écus ou pour s'assurer une place au bas-bout de la table. Pour un Balzac ou un Durfé qui vivaient sur leur terre, combien de sarrasins et de costards, combien de parasites nés sous peine de crever de faim, ils auraient eu 10 fois plus de talent que ce n'était le cas, qu'il leur aurait tout de même été impossible de mettre de la dignité dans leur existence. Il n'y avait pas de journaux, ni de revues, ni de propriété littéraire, ni de droit d'auteur au théâtre. Comment gagner son pain si ce n'est par des voies détournées et des moyens bas? Comment acquérir la fierté, le respect de sa profession et de soi-même quand le premier au bureau venu vous faisait bâtonner aux applaudissements de la galerie? Comment ne pas rester pédant jusqu'au moelle quand c'était la seule chose qui rapporta dans le métier quand on était logé et pensionné, que pour être bel esprit de la tête aux pieds et sans une heure de relâche dans son costume, dans ses manières, dans chaque mot qu'on disait, afin que le maître en eût pour son argent et apparût aux yeux de tous en protecteur des lettres, aujourd'hui que les écrivains sont au pinacle, qu'on en est même venu à s'exagérer les mérites de leur profession, puisqu'enfin, il n'y a rien d'admirable en soi à mettre du noir sur du blanc et qu'un bon cordonnier est un citoyen plus utile qu'un méchant écrivain. Aujourd'hui, il nous paraît presque inconcevable qu'il y a 3 siècles, dans les conditions que je viens d'exposer, d'honnêtes garçons qui auraient pu vendre de la chandelle se soient fait auteur de gaieté de cœur. C'est bien la preuve que la vocation littéraire est irrésistible. L'hôtel de Rambouillet tendit à modifier l'échelle des valeurs sociales et à diminuer la distance entre la science ou le talent et la naissance, entre l'intellectuel et l'homme de qualité. Les gens de lettres goûtèrent pour la première fois les douceurs de la considération. ils ne furent pas dispensés d'avoir de l'esprit, bien au contraire, mais ils furent incités à l'avoir moins rébarbatif, moins dissemblable de ce qu'on appelait l'esprit de cour, qui passait pour très supérieur, et avec justice, il n'y a pas de comparaison à faire entre les mots jaillissants et drus du grand Condé, qui était lui aussi l'élève de Madame de Rambouillet, et les facéties laborieuses de voiture ou de l'académicien Jacques Esprit, déjà en progrès cependant sur leurs prédécesseurs. Traités en égaux, les gens de lettres quittèrent peu à peu le ton du pitre ou du pédagogue avec les aimables femmes qui leur faisaient cette grâce et leur rendaient ce service. La métamorphose fut lente. Trissotin en est la preuve. Et la reconnaissance des pédants onéreuse, car ils déteignirent un peu sur leur bienfaitrice. Il suffit toutefois de regarder Racine ou Boileau, on aperçoit d'un coup d'œil l'immensité du chemin parcouru, depuis le jour où l'incomparable Artémis décida d'inviter les gens pour leur mérite personnel, à l'exclusion de tout autre motif tiré de la Renaissance ou de la fortune. Ce fut la première phase de l'évolution démocratique qui en est arrivée maintenant, sous nos yeux, à rendre le mérite personnel suspect parce qu'il choque l'idée d'égalité. La Chambre bleue vit défiler le tout Paris d'alors. Du côté des lettres, Malherbe fut un des fidèles de la première heure et il demeura le poète attitré du rond. Ainsi qu'on disait, entre initiés, jusqu'à sa mort, survenue en 1628, il était pourtant rustre et incivil, d'après Talmant et bien d'autres. Sa conversation était brusque, mais il faisait de bons vers et ne disait mot qui ne porta. C'était une recrue précieuse, un panache pour le salon. D'ailleurs, il se surveillait à l'hôtel de Rambouillet. Il faisait l'aimable avec sa barbe grise et rimait des chansons en l'honneur d'Artémis. Mais il était trop vieux pour changer et ne réussissait qu'à se rendre ridicule dans son rôle de galantin édenté, toujours crachotant. Malherbe avait été au gage de Monsieur de Bellegarde, qui lui donnait 1000 livres d'appointements avec sa table et lui entretenait un laquais et un cheval. Il eut dans la suite 500 écus, 2 pensions, 2 maris de Médicis et de nombreuses gratifications quémandées à la sueur de son front. Malherbe écrivait Hué, l'évêque d'Avranches n'épargnait point sa veine pour se faire une meilleure fortune et sa poésie, toute noble qu'elle est, n'est pas toujours employée noblement. De sorte que Monsieur de Yvetot disait qu'il demandait l'aumône, le sonnait à la main. Il avait eu pour rival, à l'hôtel de Rambouillet, un Italien brillant et complimenteur dont toutes ses femmes s'étaient engouées parce qu'on s'engoue toujours en France des écrivains étrangers quand ils le méritent et même quand ils ne le méritent pas. Marigny, on l'appelait à Paris le cavalier marin, qui les jours où il était simple appelait la rose l'œil du printemps, travaillait alors à son Adonis. Poème en 45 000 vers où chaque mot est à effet. Et il ne parlait non plus que par pointe et antithèse. Le rond se pâmait d'admiration devant ce prétentieux personnage au grand dégoût de Malherbe qui en était confirmé dans son antipathie pour la littérature italienne. L'influence de Marigny a été déplorable pour le premier salon de France. Il partit, mais il laissait en germe la préciosité. Chapelain était fils d'un notaire de Paris et avait commencé par être précepteur. Il vécut ensuite de pension, 2000 livres de Monsieur de Longueville, qui furent portés à 3000 à l'apparition de la Pucelle. 1000 livres de Richelieu, 500 écus de Mazarin. Il s'était fait donner plusieurs petits bénéfices à force de courir après, ne fût-il que 200 francs. Il avait, chose alors très rare, un bon traité avec son libraire. La Pucelle lui fut payée 3000 livres. Chapelain était dans l'aisance. C'était l'un des hommes de Paris les plus râpés, fripés, crasseux, minables, les plus fagotés en hauteur, les plus caricatures, de la tête aux pieds. Le jour où il fut présenté à Madame de Rambouillet, en 1627, elle resta abasourdie, bien qu'elle eût déjà l'habitude des gens de lettres. Elle vit un laid petit homme en habit de satin-gorge de pigeon dans un temps où l'on n'emportait point et, couvert de passementerie, bariolé. Il avait des bottes étranges, une vieille perruque, un vieux chapeau, l'air de revenir de la courtille. Madame de Rambouillet se garda de le condamner sur la mine et elle s'en trouva bien. Chapelain méritait l'estime et l'amitié. Il était plein de cœur, extrêmement instruit et passionné pour les choses de l'intelligence. Un sens critique très aiguisé lui avait valu une autorité universelle. Il entretenait une correspondance immense avec toute l'Europe savante et était consulté par tous comme un oracle. Chapelain s'intéresse à tout. Il a l'esprit singulièrement ouvert et des curiosités qui lui font honneur et qui nous étonnent. Il fut l'un des piliers du salon Rambouillet, irremplaçable pour les conversations sérieuses et les discussions littéraires. Son extérieur s'était amendé dans une certaine mesure. Il s'était vêtu de noir, comme Vadius et Trissotin, au Théâtre Français. Mais la transformation s'était accomplie sans qu'il eût cessé un seul jour d'être râpé. « Je pense qu'il n'a jamais rien eu de neuf », disait Talmant. Ménage de la bonne bourgeoisie de province n'était pas seulement un grand pédant. Il était le pédant, l'homme qui se sue l'encre et crève de vanité, le sot qui fait éternellement la roue et qui a des colères de dindon quand on ne l'admire pas. C'est de lui que descendent les gens de lettres, car il en existe encore, qui vous font passer des examens sur ce qu'ils ont écrit. Il demandait à propos de tout, avec son sourire avantageux, « Vous souvient-il du mot que je dis sur cela ?» On ne se souvenait pas. Et alors, il criait du haut de sa tête des choses piquantes et des grossièretés. Au surplus, tout le monde le connaît. Il est l'original de Vadius et Molière l'avait fait criant de ressemblance. Il fallait bien aimer la littérature pour le supporter. « Je ne l'ai jamais vu, » dit Talmant, dans l'alcôve de Madame de Rambouillet se nettoyer les dents par dedans avec un mouchoir fort sale, et cela pendant toute une visite. Avec ces belles manières-là, il se croyait irrésistible, poursuivait Madame de Rambouillet, de ses déclarations et laissait entendre qu'il était au mieux avec des femmes comme Madame de Lafayette et Madame de Sévigné. Cette dernière ne lui laissa pas porter ses ventries au paradis. Elle l'invita un jour à monter tête à tête dans son carrosse, disant qu'elle ne craignait point que personne en parlât. Outré d'un pareil mépris, Ménage se répandait en reproches. « Mettez-vous dans mon carrosse, » lui dit-elle. « Si vous me fâchez, je vous irai voir chez vous. » On ne le supportait à cause de son vaste savoir et du vif sentiment de la justice qui lui faisait oublier ses griefs et ses inimitiés toutes les fois que Mazarin ou Colbert lui demandaient la liste des gens de lettres à récompenser. Il avait du bon, sous ses dehors de cuistre, était capable de dévouement et il a rendu toute sa vie d'innombrables services. Ménage avait du bien. Il se donna néanmoins à Retz, qui le logeait, le nourrissait, lui entretenait un laquais et endura pendant 10 ans ses colères et ses criailleries. Il fallut enfin se séparer. Ménage obtint par ailleurs un bon bénéfice et fonda chez lui une succursale de la Chambre Bleue. Ses réceptions étaient très recherchées. Elles avaient lieu le mercredi et on les appelait l'Académie de Monsieur Ménage. Tout autre était le petit voiture, un malheureux pygmée, qui passa les 50 années de sa vie à se mourir. Très jeune encore, il écrivait à Madame de Rambouillet, Nancy, « Depuis que je n'ai eu l'honneur de vous voir, j'ai eu des mots qui ne se peuvent dire. En passant par Épernay, je fus voir de votre part, monsieur, le maréchal Strozzi, et son tombeau me sembla si magnifique que, voyant en quel état j'étais et me trouvant là tout porté, j'eus envie de me faire enterrer avec lui. Mais on en fit quelques difficultés, pour ce que l'on trouva que j'avais encore quelques chaleurs. Je me résolus donc de faire porter mon corps jusqu'à Nancy, où enfin, madame, il est arrivé si maigre et si défait que je vous assure que l'on en met en terre qui ne le sont pas tant. 10 ans plus tard, il faisait son portrait en ces termes. J'ai la tête assez belle, avec beaucoup de cheveux gris, les yeux doux, mais un peu égarés, et le visage assez nié. En récompense, je suis le meilleur garçon du monde, pas si bon garçon que cela. Le roi nain était un charmant causeur, une manière de précurseur du Parisien du XVIIIe siècle, par son esprit allé et sa gaieté mousseuse. Il était le bout en train de l'hôtel de Rambouillet, qu'il désempesait après le départ de ses confrères, lui apprenant le rire léger qui sied au joli rien. Mais il avait ses défauts, qui faisaient dire à Condé, « Si voiture était de notre condition, il n'y aurait pas moyen de le souffrir. » Il était petit badin avec indiscrétion. Il prenait à chaque instant des familiarités qui l'obligeaient de le remettre à sa place, comme le jour où il voulut baiser le bras d'une des filles de la maison. On lui donnait sur les doigts, il demandait pardon, mais ne se corrigeait point. La vanité l'en empêchait. C'était aussi la vanité qui le rendait jaloux et colère. Chose plus grave, il était mal sûr, d'après Mademoiselle de Scudéry, qui n'est point mauvaise langue. Sa littérature lui ressemble. Tout ce qu'il a écrit est petit et coquet, délicat souvent et plein de grâce, mais de vrais colifichets. Et quant à son goût, ce fut lui qui se chargea d'aller dire à Corneille, après la lecture de Polyeucte à l'hôtel de Rambouillet, qu'il ferait bien de garder sa pièce dans un tiroir. Sur la fin de sa vie, voiture se teignit la barbe et les cheveux, tourna un peu au pitre pour n'avoir pas su vieillir et devint fatigant par son caractère irritable. Il n'en fut pas moins jusqu'à son dernier jour. L'enfant gâté de Madame de Rambouillet et de toute sa société parce qu'il n'avait pas le gourmet et le compassé des autres. Plus de 30 ans après sa mort, Madame de Sévigné rappelait avec délice son esprit libre, badin et charmant, et ajoutait « Tant pis pour ceux qui ne l'entendent pas ». Voiture aurait pu se disperser d'être un solliciteur et un obligé. Son père avait fait de bonnes affaires dans les vins. L'usage s'en mêlant, il crut qu'il y allait de sa gloire d'avoir sa part du gâteau et profita de ses belles relations pour se faire donner de toutes mains pension, charge et bénéfices. Ses revenus devinrent considérables. Madame de Rambouillet le nourrissait. Valentin Conrart, le premier secrétaire perpétuel de l'Académie française, fut le plus utile, sinon le plus brillant, des membres du rond. Il était le bon sens de la maison, l'ami sage et discret à qui l'on s'en remettait avec la même confiance du soin de garder un secret délicat ou de donner la bonne prononciation d'un mot. Un peu pédagogue, inévitablement à force de corriger les ouvrages des autres, la jeunesse le trouvait quelquefois bien sérieux. Conrart me fait l'effet de n'avoir jamais oublié qu'il était protestant, de s'en être souvenu en parlant, en marchant, en dormant, en rimant de petits vers à l'alphise ou à l'icoris, parce que ce n'était pas une chose qu'il fût alors permis d'oublier. Tout vous le rappelait à tout instant. C'est un si grand désavantage, selon le monde, que d'être huguenot, écrivait-il en 1647, à un corps légionnaire, on sait que les réunions de lettrés, d'où est sortie l'Académie française, se tenait chez Conrart. L'Académie ne pouvait pas avoir un berceau plus honorable. Il y a plaisir à considérer cet intérieur de bourgeois à l'aise et indépendant, hospitalier avec simplicité, ne demandant rien à personne et ayant facilement la main ouverte. Sa femme était une excellente et digne créature, qui ne croyait pas qu'on dût faire des embarras parce qu'on recevait à dîner des duchesses et des marquises. Elle n'avait d'amour-propre que pour ses liqueurs de ménage, ses pastilles et autres friandises, dont elle faisait des présents aux amis de son mari. Vaugelas était un timide et un naïf, qui n'avait eu que de mauvaises chances dans la vie. Il s'était attaché à Gaston, y avait perdu, sans compensation, sa pension du roi, et s'était endetté à n'en plus jamais sortir. Madame de Carignan l'avait pris pour être gouverneur de ses deux fils. Il se trouva que l'un était sourd-muet, l'autre bègue. L'hôtel de Rambouillet essaya de le mettre en relief et y échoua. C'était un écouteur obstiné qu'il était impossible de sortir de sa grammaire et qui ne pensait qu'à attraper au vol les tours de phrase des gens de qualité. Bref, une non-valeur pour un salon. J'ai bien peur qu'il n'en faille dire autant de Corneille, qui ne fut pas brillant. Le sentit et cessa de venir, sauf les jours où il lisait ses pièces. Ce ne sont pas toujours les grands génies qui font le mieux dans les salons. Corneille, dans le monde, était toujours le bonhomme Corneille, marguillier de sa paroisse de Rouen et pas amusant de l'aveu de la Bruyère. Un autre est simple, timide, d'une ennuyeuse conversation. Il prend un mot pour un autre et il ne juge de la bonté de sa pièce que par l'argent qui lui en revient. Il ne sait pas la réciter ni lire son écriture. Pour un cercle de jolies femmes, dit Corneille, ne vaudront jamais un Antoine Godot, minuscule dans ses vers comme dans sa personne, mais toujours en verve et toujours amoureux. Quand il était en philosophie, tous les Allemands de sa pension ne pouvaient vivre sans lui. Il chantait, il rimait, il buvait et avait toujours le mot pour rire. Il était fort enclin à l'amour et comme il était naturellement volage, il a aimé en plusieurs lieux. Présenté tout jeune au rond, il fit pâlir l'étoile de voiture, à qui Mademoiselle de Rambouillet eut la cruauté d'écrire « Il y a ici un homme plus petit que vous, d'une coudée, et je vous jure, mille fois plus galant. » Godot eut tous les succès. Il fut même un bon évêque, à la surprise générale, et tout en restant, dit Sainte-Beuve, l'évêque d'Ameret, de ce monde-là. L'hôtel de Rambouillet ne demandait aux gens de lettres d'autres passeports que l'esprit. Il caressait Sarrazin, malgré ses bassesses et ses friponneries, ses mariages ignobles et sa tournure ridicule, parce qu'il avait la répartie plaisante dans une conversation générale. Il protégeait l'encombrant Georges de Scudéry, espèce de capitan à la cervelle brouillée de vanité, qui fanfaronnait du matin au soir, la tête dans les nues, vous rebattant les oreilles de ses ancêtres, de sa gloire, de ses tragicomédies, de son poème épique sur Alaric, et croyant tout de bon avoir fait entrer dans le néant Corneille et son théâtre. Il souffrait Côtelet. Côtelet, le bon ivrogne, qui avait épousé successivement ses trois servantes et n'avait même pas de talent pour se faire pardonner sa crasse et sa bohème populacière. On ne crée rien, même un salon, sans faire des sacrifices à son œuvre. Il est impossible de tout nommer. Tous y passèrent, sauf Balzac, qu'on y place d'ordinaire et qui ne pouvait pas y être. Il vivait au bord de la Charente et ne connaissait Artenis que par les lettres. Talmand et Réau l'affirment, dans cette foule aux doigts barbouillés d'encre, que peut-être aujourd'hui l'on passerait au crible, aucun du moins n'était le premier venu, et Madame de Rambouillet les mettait aux prises avec la fine fleur de la cour et de la ville, en essence et en mérite, avec tout ce qui était spirituel et gai, curieux et intelligent, obligeant les uns à s'accoutumer aux idées sérieuses et à en parler sérieusement. Les autres à jeter aux orties avec leur défroque spéciale d'auteur. Leur langage spécial et pesant de pédant, pédantisant. la présence dans le rond de nombreuses jeunes filles complétait la révolution en imposant aux causeurs le ton de la décence et de la bonne compagnie. Je ne compte point parmi les jeunes filles la belle Paulée, surnommée la Lionne, à cause du blond ardent de sa chevelure, personne extraordinairement aimable, mais d'un peu trop d'expérience. L'un des sauvetages de Madame de Rambouillet, qui l'avait repêché, catéchisé, rendu à la régularité et la considération. Je n'y range pas davantage, à aucun âge, la bonne Scudéry. C'est une grande personne maigre et noire et qui a le visage fort long. Elle est prolixe en ses discours et a un ton de voix de magister qui n'est nullement agréable. Le portrait n'est pas changé, bien qu'il soit totalement. Il est vraiment impossible de se représenter Mademoiselle de Scudéry en ingénue. Je pense aux filles de la maison par qui viendront l'excès de délicatesse, la préciosité et la décadence, à Julie d'Enghien, pour qui fut faite la guirlande de Julie et qui devint Madame de Montausier, à Angélique de Rambouillet, qui fut la première des trois femmes de Monsieur de Grignan. Je pense à toutes leurs amies, Mademoiselle de Bourbon en tête, c'était la future Madame de Longueville. Il ne faut pas se figurer une réception à l'hôtel de Rambouillet avec l'aspect austère d'une séance de l'Institut. Ce n'aurait pas été la peine d'avoir là une Sévigné, une Sablé, une Lafayette, une Paulée pour prendre des airs d'être en classe. Même en discutant, s'il fallait dire Avoine et Sarge avec la cour ou Avène et Serge avec les halles et le port au foin, même en assistant aux assauts d'éloquence des beaux esprits à propos du livre nouveau ou de la pièce en vogue. Les conversations grammaticales ou littéraires étaient pourtant l'écueil. Elles dégénéraient d'un rien en exercice de collège. On reste aujourd'hui confondu de la solennité avec laquelle Conrart parle à Balzac dans une lettre de 1639 d'un tournoi entre voiture et chapelain à l'hôtel de Rambouillet au sujet d'une comédie de l'Arioste et des arrêts en forme rendue sur ce différend par l'ermite de Laugourmois, il était urgent que les gens du monde s'en mêlassent pour empêcher de prendre au sérieux tant de choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Les écrivains venaient lire leurs œuvres inédites chez Artenis. Tous les chefs-d'œuvre de Corneille y passèrent, annonnés par leur illustre auteur, et si le rond se trompa pour Polyeucte, il vit juste pour le Cid, qu'il soutint contre Richelieu. On lisait aussi les lettres des absents. On improvisait des vers, on jouait la comédie, on raffinait en paroles sur l'amour, on faisait à tous ces jeux d'esprit des progrès en vivacité. Et l'on devenait brillant en attendant de devenir entortillé. C'était la première période du règne des précieuses. La bonne, celle dont la Bruyère a écrit d'après les récits des vieillards de son temps. Voiture et Sarrazin étaient nés pour leur siècle et ils ont paru dans un temps où il semble qu'ils étaient attendus. S'ils s'étaient moins pressés de venir, ils arrivaient trop tard. Et j'ose douter qu'ils fussent tels aujourd'hui qu'ils ont été alors. Les conversations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les petites parties où l'on était admis seulement avec de l'esprit, tout a disparu. Il y avait eu un moment unique, gracieux et rapide, comme un verger en fleurs, et que l'esprit français retrouvé n'a plus qu'au XVIIIe siècle. Le souvenir en était resté si vif que Saint-Simon écrivait 100 ans après, l'hôtel de Rambouillet était alors le rendez-vous de ceux qui avaient le plus d'esprit et de connaissances, et un tribunal de jugement redoutable au monde et à la cour. On n'y boudait pas les plaisirs mondains. La jeunesse faisait son métier de jeunesse, dansait pour l'amour du mouvement, riait pour rire, se déguisait en personnage de l'Astrée ou en petit métier de Paris, organisait des parties de campagne et jouait aux invités des tours de collégiens en vacances. Un soir, au château de Rambouillet, le comte de Guiche avait mangé force champignons. On fit rétrécir ses habits pendant la nuit. Le matin, impossible de s'habiller. L'inquiétude le prit. « Suis-je enflé ? Serait-ce d'avoir mangé trop de champignons ?» Un compère répondait « Cela pourrait bien être. Vous en mangiâtes hier au soir à en crever. » Il se regardait dans les glaces, se trouvait livide. Il fallut cesser la plaisanterie qui devenait cruelle. Madame de Rambouillet elle-même inventait des surprises, mais elles étaient plus galantes. Un jour, c'était encore au château de Rambouillet, elle proposa à l'évêque de Lisieux de s'aller promener dans une certaine prairie où se trouvait un cercle de rochers naturels et de grands arbres. L'évêque accepta. Quand il fut assez près de ces roches pour entrevoir à travers les feuilles des arbres, il aperçut en divers endroits je ne sais quoi de brillant. Étant plus proche, il lui sembla qu'il discernait des femmes et qu'elles étaient vêtues en nymphes. La marquise, au commencement, ne faisait pas semblant de rien voir de ce qu'il voyait. Enfin, étant parvenus jusqu'aux roches, ils trouvèrent Mademoiselle de Rambouillet et toutes les demoiselles de la maison, vêtues effectivement en nymphes, qui, assises sur les roches, faisaient le plus agréable spectacle du monde. Le bonhomme en fut si charmé que, depuis, il ne voyait jamais la marquise sans lui parler des roches de Rambouillet. Monsieur de Lisieux était un fond bord prêtre. Les bienséances ne s'opposaient point à ce qu'on fît des surprises de cette sorte à un évêque. Le frère de Richelieu, qui était archevêque de Lyon, se déguisa lui-même en berger, un jour que les dames s'étaient déguisées en bergères. L'une des lettres les plus agréables de voiture, adressée à un cardinal, contient le récit d'une partie de campagne faite en compagnie de Mademoiselle de Rambouillet et de Bourbon, de Madame la Princesse, mère du Grand Condé, de Mademoiselle Paulet et de quelques autres personnes. Nous partîmes de Paris sur les 6 heures du soir pour aller à la Barre, où Madame du Vigan devait donner la collation à Madame la Princesse. Nous arrivâmes à la Barre et entrâmes dans une salle où l'on ne marchait que sur des roses et de la fleur d'orange. Madame la Princesse, après avoir admiré cette magnificence, voulut aller voir les promes noires, en attendant l'heure du souper. Le soleil se couchait dans une nuée d'or et d'azur et ne donnait de ses rayons qu'autant qu'il faut pour faire une lumière douce et agréable. L'air était sans vent et sans chaleur, et il semblait que la terre et le ciel, à l'envi de Madame du Vigan, voulaient festoyer la plus belle princesse du monde. Après avoir passé un grand parterre et de grands jardins, tout plein d'orangers, elle arriva en un bois, où il y avait plus de 100 ans que le jour n'était entré qu'à cette heure-là, qu'il y rentra avec elle. Au bout d'une allée grande à perte de vue, nous trouvâmes une fontaine, qui jetait toute seule plus d'eau que toutes celles de Tivoli. Alentour étaient rangés 24 violons qui avaient de la peine à surmonter le bruit qu'elle faisait en tombant. Quand nous nous en fûmes approchés, nous découvrîmes dans une niche qui était dans une palissade une Diane à l'âge de 11 ou 12 ans et plus belle que les forêts de Grèce et de Thessalie, ne l'avait jamais vue. Elle portait son arc et ses flèches dans ses yeux et avait tous les rayons de son frère à l'entour d'elle. Dans une autre niche au pré était une de ses nymphes, assez belle et assez gentille pour être de la suite. Ceux qui ne croient pas les fables crurent que c'était Mademoiselle de Bourbon et la pucelle Priande. Et à la vérité, elle leur ressemblait extrêmement. Tout le monde était sans proférer une parole, en admiration de tant d'objets, qui étonnaient en même temps les yeux et les oreilles. Quand tout à coup la déesse sauta de sa niche et avec une grâce qui ne peut se représenter, commença un bal qui dura quelque temps à l'entour de la fontaine. Ici, le petit voiture, qui avait des obligations à son correspondant, le cardinal de la Valette, se représente pleurant son absence et communiquant sa douleur à toute la compagnie. Et cela eut duré trop longtemps, poursuit-il. Si les violons n'eussent vitement sonné une sarabande si gaie, que tout le monde se leva, aussi joyeux que si de rien n'eût été. Et ainsi, sautant, dansant, voltigeant, pirouettant, cabriolant, nous arrivâmes au logis où nous trouvâmes une table qui semblait avoir été servie par les fées. Ceci, monseigneur, est un endroit de l'aventure qui ne peut se décrire. Et certes, il n'y a point de couleur ni de figure en la rhétorique qui puisse représenter six potages, qui d'abord se présentèrent à nos yeux. Et entre autres choses, il y eut 12 sortes de viandes et de déguisements dont personne n'a encore jamais ouï parler et dont on ne sait pas encore le nom. Au sortir de table, le bruit des violons fit monter tout le monde en haut, où l'on trouva une chambre si bien éclairée qu'il semblait que le jour, qui n'était plus dessus la terre, s'y fût retiré tout entier. Là, le bal commença en meilleur ordre et plus beau qu'il n'avait été autour de la fontaine. Et la plus magnifique chose qui y fut, c'est, monseigneur, que j'y dansais. Mademoiselle de Bourbon jugea qu'à la vérité, je dansais mal, mais que je tirais bien des armes, pour ce qu'à la fin, de toutes les cadences, il semblait que je me misse en garde. La fête se termina par un feu d'artifice, après lequel on reprit le chemin de Paris à la lueur de 20 flambeaux, et en chantant des ponts neufs. Au village de la Villette, on rattrapa les violons, et une enragée proposa de les faire jouer. Il était entre 2 et 3 heures du matin et voiture n'en pouvait plus. Il bénit le ciel en apprenant que les violons avaient laissé leur instrument à la barre. Enfin, nous arrivâmes à Paris. Nous vîmes qu'une grande obscurité couvrait toute la ville et, au lieu que nous l'avions laissé, il n'y avait que 7 heures, pleines de bruit, d'hommes, de chevaux et de carrosses. Nous trouvâmes un grand silence et une effroyable solitude partout, et les rues tellement dépeuplées que nous n'y rencontrâmes pas un homme, et virent seulement quelques animaux qui, à la lueur des flambeaux, se cachaient. La lettre est un peu longue, même en y faisant de larges coupures. Mais c'est comme si l'on avait passé une soirée avec eux. Il ne manqua point de contrefaçon de l'hôtel de Rambouillet à Paris et jusqu'au fond des provinces. La vie de salon s'implanta de proche en proche dans toute la France, avec des conséquences littéraires qui ont déjà été étudiées et des conséquences politiques qui ont moins retenu l'attention. Ce fut le commencement de la domestication de la noblesse. Les anciens passe-temps du gentilhomme, en sa gentilhommière, ne prenaient pas sur son indépendance. On pouvait aimer de tout son cœur à chasser, à batailler avec ses voisins et demeurer un être insociable, ce qui est le seul moyen d'être un homme libre. Les nouveaux divertissements exigeaient des sacrifices continuels aux convenances d'autrui, chose excellente en soi et qui a cependant mal tourné pour l'aristocratie française. Le jour où il convient à Louis XIV, qui avait ses raisons, de transformer ses ducs et pairs en courtisans et en grand baron de l'antichambre. Il n'y trouva pas assez de difficultés. L'incomparable Arthénis lui avait trop bien mâché la besogne. Sans y penser, lorsqu'elle avait donné le goût des jeux innocents et des belles conversations aux plus remuants, y compris la grande mademoiselle elle-même. Il nous reste à examiner ce que notre princesse et toute la fronde ont dû de faux grands sentiments et de fausses grandes ambitions au théâtre de leur temps. Nous connaîtrons alors les principaux éléments, sauf un, l'élément religieux qui viendra à son heure, dont s'était formée la société idéalisée par Corneille, et que mademoiselle a fidèlement représentée jusqu'à son dernier soupir. Nous n'aurons plus alors qu'à regarder vivre et agir ce monde romantique, jusqu'à l'avènement de la société si différente que Racine a eu sous les yeux.